historiquement vôtre.
Le récit.
C'est une histoire d'amour qui finit mal, comme ils le font en général, mais celle-là quand même un peu plus que les autres.
Ils écoutaient vraiment de la musique pourrie comme ça au Moyen-Âge ou il y avait autre chose?
Ah non, il n'y a pas autre chose. Vous n'aviez pas le choix.
Ils pouvaient pas.
Mais c'est pas pourri. Vous n'écoutez pas ça chez vous?
C'est un petit peu, c'est
moi,
un petit
bien.
Peu morose.
Non, non, mais mettez-vous, vous savez, remettez-vous dans le contexte de l'époque, avec des murs de 6 mètres... il fait froid.
Donc c'est une musique qui réchauffe, vous trouvez?
Moi, je trouve.
Ah oui.
Alors, une histoire d'amour si enflammée qu'elle est devenue l'image même de la passion amoureuse pour les siècles à venir. Écoutez, Héloïse et Abélard sont pour l'éternité inséparables. Le couple mythique originel. Leur affaire est pourtant bien réelle, faite de chair et d'os et de nombreux rebondissements aussi. Nous sommes au tout début du XIIe siècle, dans un Paris resserré autour de l'île de la Cité. Un Paris aux petites ruelles étroites et déjà bien animées. Abélard, lui, est dans sa trentaine. Noble, bel homme, brillant professeur de philosophie et de théologie, c'est la star de l'école cathédrale de Paris que ses étudiantes et ses étudiants admirent. Héloïse, elle aussi, elle est connue. Elle est très jeune, elle n'a pas plus de 16 ou 17 ans, et elle est née d'une union illégitime, ce qui a fait grand bruit à l'époque. Elle vient juste de sortir du couvent d'Argenteuil, où elle avait été placée enfant, et déjà on vante sa beauté et surtout son érudition. Elle parle le latin, le grec. Elle a l'ambition d'étudier la grammaire, la rhétorique, l'astronomie et pas seulement la religion. Une chose assez rare, il faut bien le dire, Mathieu, pour une jeune femme de son temps. C'est son oncle, le chanoine Fulbert, qui a recueilli la jeune fille. Un chanoine, c'est celui qui aide l'évêque. Fulbert est en quelque sorte le numéro 2 de la cathédrale de Paris. Et il vit à deux pas de la cathédrale, à peu près à l'emplacement du parvis de l'actuelle Notre-Dame. C'est juste pour que vous imaginiez la chose, hein. On est une cinquantaine d'années avant le début de la construction de Notre-Dame. Donc il y a
une
déjà
petite
église,
quoi.
Elle est plus modeste que celle qu'on voit aujourd'hui. Héloïse est noble, on la destine à devenir abbesse. Elle doit pour cela recevoir une très bonne éducation et c'est là un merveilleux prétexte pour notre Abélard. Il connaît la réputation de la belle Héloïse et brûle de la rencontrer. Oh, pas tellement pour lui transmettre son savoir, non. Écoutez-le plutôt. « J'avais une telle réputation, une telle grâce de jeunesse et de beauté que je croyais n'avoir aucun refus à craindre quelle que fût la femme que j'honorasse de mon amour. » Aussi malin qu'il est, le fanfaron, Abélard obtient le poste de professeur particulier. Imaginez-vous, Mathieu, il est logé chez Fulbert. Bon, ça se faisait couramment au Moyen-Âge. Autant confier une tendre brebis à un loup affamé, avoue le professeur. À l'époque, les punitions, y compris corporelles, font partie des relations entre un maître et son élève. Et Fulbert demande à Abélard de se montrer sévère.
Ah bah tiens, il va pas se
gêner. Absolument toutes les conditions sont réunies pour que les choses dérapent. Ce qui va se passer assez rapidement.
Vous racontez tout, Stéphane.
« Mes mains, dit Abélard, revenaient plus souvent à son sein qu'à nos livres. » Mais rapidement, il est pris à son propre piège. « Il est amoureux, autant que sa jeune élève est folle de lui. Les mots d'amour qu'ils échangent n'ont rien à envier aux Romains à l'eau de rose. Ils sont très charnels. Elle l'appelle ma douce lumière, mon souffle, mon astre d'or. » Mais on est tout de même très loin de l'amour courtois médiéval tel qu'on se le représente. « Quand je suis près de vous, je suis entièrement en feu et je suis entièrement brûlé jusqu'à la moelle », détaille Abélard. Très vite, toute l'île de la Cité, c'est pas très grand en même temps, est au courant. Sauf Fulbert, bien sûr, qui finit tout de même par découvrir les deux amants en plein zébat. Il est furieux, vous l'imaginez. Il chasse Abélard juste au moment où Héloïse découvre qu'elle est enceinte.
Ils ne sont pas protégés en plus.
Bah non, à part des boyaux
oui,
de porc.
Je ne sais pas comment vous allez à l'époque, vous devez savoir, Stéphane.
Oui, des boyaux de porc.
C'est ça ?
Mais c'est arrivé plus tard,
voyez-vous.
Ah
oui, d'accord.
Abélard enlève la jeune fille, l'emmène dans sa famille en Bretagne où elle accouche d'un petit garçon, Astrolabe. C'est son nom.
C'est génial d'appeler son fils Astrolabe. Je trouve qu'il faudrait relancer ça.
Fulbert, pour réparer l'honneur gravement entamé de sa nièce, exige le mariage. Abélard y consent, mais pas Héloïse. C'est encore une preuve de son incroyable force d'esprit. Elle ne veut pas qu'Abélard s'embête d'une vie de famille. Il doit se concentrer tout entier à ses études, à sa carrière. Et puis l'amour, pour être pur, grand et beau, doit être désintéressé. Pour cet idéal, Héloïse est prête à sacrifier son bonheur. Bon, évidemment, l'oncle enrage, il va même jusqu'à la battre. Pour la protéger, Abélard soustrait Héloïse à son oncle et la place dans une abbaye. Pour Fulbert, c'est la goutte d'eau. La preuve qu'Abélard compte revenir sur sa parole et ne pas assumer le mariage publiquement. Dans sa colère, le chanoine prépare sa vengeance, la plus cruelle, la plus terrible des vengeances.
Il va encore lui faire écouter de la musique médiévale ?
Non, je vous dirai tout dans un instant.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est un peu Roméo et Juliette, mais en vrai, avec une petite différence d'âge, Stéphane nous raconte les amours contrariés d'Héloïse et Abélard.
Oui, je vous avais laissé au moment où je vous disais que Fulbert préparait sa vengeance. Le chanoine Fulbert n'a pas digéré la trahison du professeur particulier de sa nièce, qui, c'est vrai, lui a tout de même fait un enfant au lieu de lui enseigner la philosophie.
Bon, il lui a peut-être enseigné la philosophie aussi, quand même.
Aussi, oui. Fulbert fulmine et engage deux châtreurs de porc. Par une nuit noire, les deux hommes en mission s'introduisent dans l'auberge où Abélard dort profondément et quick, quick,
c'est comme ça pour vous, c'est comme ça que vous ressentez le moment, quoi. Pour
on
vous,
en parlera
ça fait quick, quick pour
on
vous.
En parlera
je ne pense
tout
pas que ça fasse quick, quick, Stéphane.
Je ne sais pas, c'est avec notre amie Clémentine Portier-Kaldenbach pour les castrats. En tout cas, il les mascule.
Oui.
Voilà. Abélard, pour panser ses plaies, se réfugie à Saint-Denis et devient moine.
Ouais, j'aurais eu le même réflexe.
Héloïse prend elle aussi le voile. Mais leur vie, décidément, n'est pas un long fleuve tranquille. Abélard est chassé de Saint-Denis après avoir expliqué à ses frères que leur mythe fondateur ne tenait pas la route. Réfugié en ermite près de Nogent-sur-Seine, il fonde une nouvelle abbaye, le Paraclet, avant d'être finalement nommé abbé en Bretagne où les moines tentent à plusieurs reprises de l'assassiner. Pendant plus de 10 ans, il n'a pas de nouvelles d'Héloïse. Quand elle reprend contact avec lui, c'est pour lui apprendre qu'elle a été elle aussi chassée de son couvent. Abélard lui offre de s'installer au Paraclet et les deux amants s'écrivent à nouveau. Héloïse, qui n'est pas vraiment enchantée par la carrière ecclésiastique, soupire après le souvenir de leur histoire. « Ces voluptés de l'amour que nous avons goûtées ensemble m'ont été si douces que je ne puis l'effacer de ma mémoire. Je devrais gémir des fautes que j'ai commises et je soupire après celles que je ne puis plus commettre. » Mais pour Abélard, le cœur n'y est plus. « Je faisais passer ces misérables et immondissimes voluptés, j'en rougis encore rien que d'en parler, avant Dieu et avant moi-même. » Loin de sa vie de jeune homme, Abélard passe désormais sa vie à la bibliothèque. On dit même qu'il serait mort la tête dans ses livres. Héloïse fait rapatrier son corps au Paraclet et à sa mort, 20 ans plus tard, se fait enterrer à ses côtés. La légende dit que le squelette d'Abélard lui aurait ouvert les bras. En 1817, en tout cas, leurs restes sont transférés dans une ultime demeure, un bâtiment néo-gothique que l'on peut encore admirer à Paris. Au cimetière du Père Lachaise.